La Cité de l'Espace ouvre le terrain martien et son animation immersive pour comprendre l'exploration actuelle de Mars. Cette exposition nous donne l'occasion de faire le point sur les différentes missions actuellement en cours sur la planète rouge. L'astrophysicien de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, l'IRAP, est à mes côtés. Bonjour Sylvestre Maurice.
Bonjour.
Ce n'était pas un poisson d'avril vendredi, mais plutôt un scoop. Le robot Persévérance de la NASA, qui arpente la surface de Mars depuis février 2021, a pu enregistrer les premiers sons de la planète audibles par l'oreille humaine. Comment cela a-t-il été rendu possible, Sylvestre Maurice ?
Ah, mais c'est à bord du robot Persévérance, hein, c'est un robot de la NASA, on a mis un micro. Voilà, c'est tout simple. Ça faisait peut-être 20 ans, 30 ans qu'on essayait de faire ce développement. C'est pas si simple. Ça a été rendu possible avec un tout petit micro développé ici à Toulouse par l'école Isae Supaéro, qui l'a construit en son sein. On l'a livré à la NASA et maintenant il est sur Mars.
Et combien d'heures d'enregistrement pour parvenir à un son?
Ah, c'est pas beaucoup, mais on a 5 heures. On a une playlist de 5 heures avec toutes sortes de sons et ça nous intéresse.
Alors nous allons écouter ce son que le rover Persévérance a enregistré. Pour nos oreilles de néophytes, nous entendons du vent, du souffle, mais pour
souffle,
vous?
Du souffle. Alors, c'est ce qui nous intéresse. En fait, c'est la turbulence de l'atmosphère. Il faut savoir que sur Mars, il fait à peu près entre la surface et 2 mètres de hauteur, il y a un gradient de 40 degrés. Il fait 40 degrés plus chaud à la surface qu'à 2 mètres. Mais chaud aux pieds, en fait, sur Mars.
Ouais.
Et ça va générer de la turbulence, des tourbillons. L'air chaud monte et puis se refroidit, descend. Et voilà, c'est ce qu'on entend. C'est cette turbulence. Alors, on entend un petit peu de vent aussi. Alors, pas sur cet enregistrement, sur d'autres enregistrements. C'est très sourd, on est à très basse fréquence. Ça, c'est les propriétés du gaz qui constitue l'atmosphère de Mars et du CO2. Donc, on va être autour de 300 Hertz. C'est très, très bas, très, très grave. Et voilà, c'est ce souffle, cette turbulence. Et pour nous, c'est plein d'informations sur les échanges de température entre l'atmosphère et la surface. Et ce qui va piloter finalement le climat martien.
Qu'est-ce que vous faites comme analyse à partir de ces sons que vous recevez? Est-ce que vous arrivez à déterminer en fait la vie, entre guillemets, sur Mars?
Alors non, pas sur la thématique de la vie, on aimerait bien. Mais en tout cas, on a eu pendant, je sais pas quoi, 50 ans, des images qui sont très belles, les images martiennes, on les aime avec ces couleurs rouges, ocre, c'est très très minéral, sans le son. Ça y est, en fait, on vient de mettre le son. Alors, c'est une nouvelle dimension, hein, c'est un sens, Louis, qui nous manquait, alors qu'on avait le toucher, le goût, l'odorat, évidemment, la vue, on l'avait. Et alors, ce nouveau sens, c'est une nouvelle dimension dans la perception. Je vous ai dit, l'atmosphère, c'est surtout autour de l'atmosphère, hein, la turbulence, les propriétés de l'atmosphère, de pression, de température. On est en train de découvrir tout ça, hein. C'est une première publication qui dit... On sait le faire, on l'a fait, le microphone marche très très bien. Maintenant, à nous de faire des analyses. Alors, ces analyses acoustiques qu'on appelle temps fréquence, on fait du filtrage, un peu comme dans un studio, pour essayer de trouver l'information qui nous intéresse.
Est-ce que vous avez des indications sur la vitesse du son, par exemple, sur les graves, les aigus?
Oui, bien sûr. Alors, on est dans la bande audible, hein, la bande audible. Alors, pour les spécialistes, de 20 Hertz à 20 kHz. Vous savez, en dessous, ça s'appelle les infrasons, au-dessous, les ultrasons. La bande audible, c'est celle de l'oreille. Bon, 20 kHz, c'est vraiment l'oreille des jeunes, des ados, nous, moi, j'y suis plus depuis longtemps. Mais bon, donc, on est dans cette gamme audible et on fait donc nos mesures. On a une chance sur Persévérance, c'est qu'on a emmené aussi des sources de son. C'était ça l'originalité. Le son passif, l'écoute passive, on vient de l'écouter, c'est le vent, la turbulence. Mais de temps en temps, eh bien, on tire un laser. Alors le laser, il a une autre fonction, il mesure la chimie des roches, mais quand il brûle la matière, ça fait un petit clac comme ça, très très fin. Alors assez aigu, et on sait où il est à 3 mètres de nous par exemple, on sait au moment où on le tire. Vous connaissez une distance, un temps, vous avez une vitesse. On a mesuré ainsi la vitesse du son. Alors avec le laser, c'est une vitesse du son très aiguë. Hein, quelques kilohertz. On a aussi une autre chance, on a un drone. Le drone, il s'appelle Ingenuity. C'est un petit hélicoptère qui vole de 50 à 100 mètres. On l'a écouté. Pareil, on sait sa distance, on sait quand il vole. On a pu faire une mesure du son. Alors lui, il est plutôt dans le très très grave. Il est à 84 hertz. Et donc, on a fait une mesure du son dans les aigus, une mesure du son dans les graves. Et ça, c'est le plus beau résultat de cette analyse, c'est qu'on a trouvé deux valeurs différentes. Alors, c'est un truc qui n'existe pas sur Terre. C'est complètement étonnant. Sur Terre, le son à 20 degrés voyage à 343 mètres par seconde. Ça, on le sait depuis assez longtemps. Oui. Et c'est toujours le même. Heureusement, quand vous êtes à un concert, vous recevez à la même vitesse les aigus et les graves, sinon ça sera embêtant. Et bien, sur Mars,
C'est décalé.
Oui. L'un est à 240 mètres par seconde, l'autre est à 250 mètres par seconde. Il y a 10 mètres par seconde, je pense que le cerveau doit être un peu en vrac. S'il devait être capable d'entendre sur Mars, alors on n'oublie pas, sur Mars, il y a tellement peu d'atmosphère, c'est que du CO2, que l'astronaute n'enlèvera pas son casque pour écouter un concert sur Mars. On restera à l'intérieur d'un casque d'astronaute.
Vous avez évoqué, Sylvestre Maurice, cet hélicoptère, ce petit drone, la Ingenuity. En fait, à quoi il sert? Est-ce qu'il est là pour prendre des images?
Alors, Ingenuity, c'est ce qu'on appelle un développement technologique au départ. Vous savez, on fait des choses... Là, c'est une mission très scientifique. Il y a 7 instruments scientifiques sur ce gros rover d'une tonne. Et on a Ingenuity, on avait dit, bon, il faut arrêter de faire toujours la même chose. Il faut de temps en temps prendre des risques. Là, c'est un risque énorme.
Pourquoi c'est un risque énorme?
Parce que c'est des technologies... Il va aller faire un hélicoptère qui vole sur Mars. Et Mars, ça vole pas. On a beau essayer, il y a très peu de pression, il fait très froid. Tous les spécialistes de l'aéronautique que je pourrais trouver ici à Toulouse me diraient « mais non, ça peut pas voler ». Il a fallu concevoir un hélicoptère dont les pales font 1,20 m et qui en même temps fait moins de 2 kg et qui tourne, les pales tournent 4 fois plus vite qu'un hélicoptère. Et donc, c'est un truc spécial. Et il fallait des technologies très très légères, très particulières, donc une vraie prise de risque pour voler, prendre des images, aller devant nous envoyer les images au rover, comme ça on a un peu les terrains sur lesquels on va rouler. C'est un explorer, en quelque sorte. Mmh. Et on pensait qu'il devait faire 5 vols, il a fait plus de 20 vols maintenant, et donc il fonctionne très très bien, la prise de risque était payante. Et il est devant nous, alors on le suit, nous on fait nos 100 mètres, lui il fait son petit chemin d'un côté, on se retrouve de temps en temps, on s'écarte, c'est un joli balai tous les deux.
Oui, et vous avez donc cette super cam dont vous avez, à la construction de laquelle vous avez participé, la conception. Qu'est-ce que vous avez pu voir?
Alors, Supercam, c'est un ensemble d'instruments. C'est la tête. Hein. Vous voyez, c'est ce robot. Si vous envoyez des images, il faut regarder parce qu'il est assez. Ouais, c'est une belle machine. Hein. C'est pour ceux qui aiment l'ingénierie, c'est
un
très,
beau bébé
très, très
hein,
beau.
Quand on vous entend parler.
Et il y a cette tête un peu rectangulaire. C'est une sorte de boîte à chaussures sur la tête avec un œil. Et c'est ça, Supercam. Alors, c'est une suite instrumentale. Il y a un instrument. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec un laser qui fait la chimie. Il dit tiens, ça, il y a tant de sodium, de potassium, de calcium. C'est la chimie. Il y en a un autre qui fait la minéralogie. Il dit voilà comment les éléments sont attachés entre eux, les molécules. Il y en a même un deuxième qui fait de la minéralogie. Et puis, il y en a un troisième qui fait de l'imagerie et qui a regardé à longue distance, par exemple, ou très près. Très près, ben, c'est des petits champs de vue. À longue distance, c'est un peu plus gros, mais très, très finement en disant tiens, je vois des strates, je vois le contexte géologique. Et puis, le cinquième, c'est le micro. C'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Mais c'est un ensemble, un tout cohérent et qui doit raconter une histoire et surtout aider à prélever des échantillons sur Mars.
Alors justement, ces échantillons, est-ce qu'un jour on peut imaginer qu'ils reviendront sur Terre?
Oui, alors c'est l'étape. Hein. Ça s'appelle le programme du retour d'échantillons. La première étape, c'est les collecter, les choisir. Et là, Supercam est dans son rôle. Je choisis celui-là plutôt que celui-là et je donne le contexte autour. Je dis, voilà, quelle information j'ai au moment où je les prélève. Le robot les prélève, Persévérance les prélève. Dans des petits tubes, on doit en faire 40. Et après, on va les poser au bord du chemin. Et nous, on a fini notre mission. C'est terminé. Et en ce moment, ici à Toulouse, on prépare un autre segment en Angleterre, aux États-Unis aussi. C'est-à-dire une fusée qui décolle, qui va se poser pas trop loin, un petit rover qui va chercher les échantillons, une autre fusée qui se pose pas trop loin et qui emporte une fusée de retour pour la première fois. Et le petit rover va donner à la fusée de retour qui met les échantillons en orbite et encore une fusée qui part pour attraper les échantillons en orbite et les rapporter sur Terre. Voilà, avec toute cette histoire, les échantillons qu'on collecte aujourd'hui, en 2031, à peu près 10 ans, ils reviendront sur Terre, on l'espère. Et pour ça, il nous faut encore au moins 3/4 de fusée.
Et oui, parce que la fusée ne peut pas faire l'aller-retour.
Non.
Ce serait trop simple, en fait.
Non. Oui, alors on aimerait bien. Faut penser que depuis qu'on fait des missions martiennes, on fait que des allées simples, c'est-à-dire qu'on se pose et on n'est jamais revenu. Déjà, il faut redécoller de Mars. Il y a une gravité. Alors, elle est 1/3 de la gravité terrestre. C'est un petit peu plus simple. Mais là, on va simplement faire une petite fusée de 3-4 mètres de haut. Et c'est déjà pas mal. Qui va avoir suffisamment d'énergie pour décoller puis mettre les échantillons dans une sorte de ballon de basket en orbite. Les échantillons tourneront autour et puis un autre véhicule va les capturer.
Oui, parce que le voyage dure quand même 7 mois. Donc
Oui, c'est, le voyage est un peu long, mais c'est pas tant ça qui nous gêne, c'est la complexité de l'ensemble. Oui. Comment redécoller de Mars? Comment attraper un ballon de basket qui tourne autour de Mars? Comment revenir sur Terre? Comment gérer le retour sur Terre? Où va-t-on se poser? Comment préserver l'intégrité des échantillons sans les polluer? Et puis les distribuer ensuite à toute la communauté scientifique.
Est-ce que l'étude de ces échantillons va peut-être vous permettre d'imaginer une vie, l'envoi d'un astronaute sur Mars un jour?
Alors, oui, de toute façon, toutes les missions que nous faisons préparent l'arrivée un jour des astronautes, avec une échelle de temps qu'on ne connaît pas. Les échantillons eux-mêmes, dans leur étude très fine, vont répondre à une question fondamentale. Est-ce qu'il y a eu un jour la vie sur Mars? In situ, on sait que c'est pas de la vie macroscopique, hein, c'est très ténu. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une époque il y a 3 milliards et demi d'années, et sur Terre, on voit bien, il y a 3 milliards et demi d'années, c'était des bactéries qui vivaient dans un océan, quoi. Et donc, il y avait de l'eau liquide sur Mars, elle n'existe plus, donc peut-être que ça s'est passé sur Mars. Et c'est en regardant dans le détail ces échantillons dans nos laboratoires, où on fait des précisions qui sont 1000 fois meilleures que ce qu'on pourrait faire in situ. Là, on aura enfin la réponse à ce qu'il y a eu la vie sur Mars. Et puis, en parallèle, bien sûr, on travaille toujours à projeter nos rêves, nos ambitions de conquête au sens de découverte avec un jour, je l'espère, des astronautes sur Mars. Oui.
Alors, justement, pour entretenir ce rêve, cette exposition à la Cité de l'Espace qui ouvre aujourd'hui propose une immersion, en fait, une sorte d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'on peut voir?
Ah oui, la Cité de l'Espace, on travaille ensemble, c'est ça qui... nous, on a quelque chose où ils savent le raconter. Ils ont construit un très beau, un cratère, vraiment un cratère d'impact avec des roches. Les sculpteurs, peintres, ben on était assis à côté en disant ben voilà comment ça doit être pour ressembler à Mars. On a choisi des choses qu'on vient plutôt du rover Curiosity, hein, des structures, des strates. Et puis dans ce cratère avec des gradins où je pense qu'on est bien, on profite vraiment d'une très belle animation. Il y a des robots. Et les robots, et c'est unique.
Donc copie conforme des robots qui sont
sur
Mars.
Ah oui, ils sont à l'échelle 1, on en a choisi 2. L'un, c'est Persévérance, puisqu'il est en action en ce moment. Et on le voit se déplacer, tendre le bras, tourner la tête, passer des obstacles. C'est assez impressionnant. Et puis, on a pris un deuxième, parce qu'il y a un robot chinois sur lequel on travaille aussi, Zhurong. Et on le voit, alors il est différent, il y a des panneaux solaires. Il a un fonctionnement, il peut rouler carrément en crabe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces robots, de découvrir la science de Mars, mais aussi de voir comment ça marche. À des systèmes électriques qui sont différents, l'un des panneaux solaires, l'autre un réacteur au plutonium, l'un a des antennes, bon, l'autre aussi, mais elles sont différentes. Voir un peu, c'est quoi la robotique planétaire? Et c'est pour tous les âges, c'est ça qui est sympa, parce qu'on peut caler le niveau, bien sûr, et je pense que tout le monde s'émerveille. On est le premier qu'on a pu voir pour essayer, parce que voilà, c'est unique, hein, vraiment.
Oui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir mis des étoiles dans les yeux ce matin et aux auditeurs de Radio Présence et donc cette expérience à la Cité de l'Espace qui s'appelle Terrain Martien, les rovers entrent en scène. Merci Sylvestre Maurice.
Merci à vous.